Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de course. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans le cadre de nos émissions d'intersaison les pastilles dévolues à des thèmes particuliers et nous revenons aujourd'hui sur les trois Français peut-être qui ont fait le plus parler d'eux l'année dernière, en tout cas parmi ceux qui sont également les plus attendus pour l'année 2020, à savoir Thibaut Pinot, Romain Bardet et Julien Alaphilippe. Voilà, ce sont trois coureurs qui ont connu des destins assez divers durant l'année précédente. On va un peu revenir d'ailleurs sur l'ensemble de leur saison et voir également bien sur quoi on peut se projeter pour 2020, ce qu'on peut attendre d'eux en fonction d'un calendrier UCI un peu particulier à venir, puisqu'il sera également différent par rapport aux dernières années, puisqu'il sera également modifié par la présence de deux grosses échéances, à savoir les Jeux Olympiques et des Mondiaux dévolus à des coureurs qui doivent savoir grimper. Voilà, donc pour nous accompagner durant cette émission, on retrouve Grégory.
Salut tout le monde.
Mais aussi Charles.
Salut Max, bonsoir à tous.
Et également Greg.
Salut Max, salut tout le monde.
Voilà, bonsoir à vous, chers commissaires. Oui, donc un programme assez chargé avec trois vedettes du peloton français, nonobstant les autres coureurs, hein, à savoir les sprinteurs. On peut dire quand même qu'on tient avec ces trois-là, trois coureurs de premier plan et qui vont devoir bien faire face à des échéances assez particulières effectivement l'année prochaine, après avoir connu des destins très divers. Grégory, est-ce que tu veux revenir brièvement, on va dire, sur l'ensemble de leur saison pour juste décrire ce qui leur est un peu arrivé, parce que entre les uns et les autres, il y a eu beaucoup de choses différentes qui leur sont arrivées. Et finalement, ce sera la bonne occasion aussi de faire le point, de savoir à partir de quoi on devrait partir sur cette année.
Bah, je vais commencer par Romain Bardet. En fait, on a tous vu qu'il avait connu un Tour de France très très difficile, sauvé in extremis par un maillot de meilleur grimpeur obtenu limite par défaut, on va dire, grâce au barème. Il avait commencé sa saison assez correctement. On imaginait que c'était dans l'optique de la préparation au Tour de France, donc il avait enchaîné quelques placettes au Var, les courses de début d'année comme la Classique Ardèche, la Royale Drôme Classique. Il a fait un Paris-Nice assez correct, mais pareil, on voyait ça comme une préparation. Et puis derrière, ça a commencé à se gâter un petit peu avec des Ardennaises où il a existé à moitié malgré un top 10 sur l'Amstel. Et puis un Dauphiné en second rideau et une défaite inexplicable au Mont Ventoux Challenge. Pour finalement faire le Tour de France qu'on a vu complètement dépassé par les événements, mais il a quand même sauvé son tour par le maillot de la montagne et il a finalement stoppé sa saison sur cette fin de Tour de France difficile. Concernant Thibaut Pinot, là c'était un peu différent, donc on a eu un sacré ascenseur émotionnel avec lui. Il a fait un début de Tour de France très 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 beau. On a cru qu'il pouvait avoir le niveau à la pédale pour remporter le Tour, ce qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps. Et malheureusement, ça s'est mal fini avec une blessure qui l'a fait abandonner juste avant l'arrivée, enfin juste avant les étapes tronquées et l'arrivée, quoi. Mais avant ça, il avait quand même remporté le Tour de l'Ain, il avait fait quelques classements intéressants, un Dauphiné correct, un Tirreno correct aussi. Il a pas mal, il a gagné le Tour du Haut-Var, il a eu pas mal de bonnes places sans pour autant tout gagner sur son passage, mais il avait fait un bon début de saison. Mais lui aussi, comme Romain Bardet, a stoppé sa saison sur le Tour de France. On ne l'a pas revu en fin de saison sur les classiques italiennes. Et pour conclure avec ses coureurs, Julien Alaphilippe, qui lui a fait un Tour de France exceptionnel, à l'exception des dernières étapes tronquées où il a craqué quelque peu. Et deux victoires d'étape sur le Tour de France, dont le contre-la-montre où il était quand même très très fort. Il a fait une très belle saison puisqu'il a gagné un peu partout. Au final, une super victoire à Milan-San Remo, la victoire au Strade Bianche. Mais il a gagné sur Tirreno, sans gagner le général, mais il a gagné sur Tirreno. Bon, la Flèche Wallonne, ça va être, je pense, le grand spécialiste de cette course depuis le déclin de Valverde.
Donc, ah, c'est officiel, tu penses qu'il... Ça y est, on peut dire, il décline. Enfin bon, c'est un peu hors sujet, mais...
Ouais, c'est hors sujet. Après, Valverde est devenu grimpeur, j'ai l'impression, donc c'est différent. Donc c'est vrai que Alaphilippe a gagné un peu partout là où il est passé, sans forcément gagner les classements généraux, mais il a gagné dès le début de saison à San Juan, gagné sur le Tour de Colombie,
J'ai envie de dire finalement, à la lumière de ce que tu nous résumes là, et je vais relancer Charles là-dessus, finalement le révélateur pour ces trois coureurs aurait été le Tour de France. Et ça aurait été pas forcément d'ailleurs qu'un révélateur, mais aussi, on va dire, le grand moment, le tournant de la saison pour chacun de ces trois coureurs. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette affirmation, Charles.
Si, ouais, tu as complètement raison, Max. Ça a été le tournant pour ces coureurs-là. D'ailleurs, Greg l'a expliqué, on n'a pas revu Pinot et Bardet après la grande boucle. Ils ont tous les deux mis un terme à leur saison. Et Julien Alaphilippe a vachement baissé pavillon. Aussi après le Tour de France, puisqu'il était un peu en retrait lors des mondiaux et qu'on ne l'a pas non plus vu au Tour de Lombardie ensuite. Quoi. Donc, comme tu l'as dit, un peu la croisée des chemins pour cette fin de Tour de France.
Greg, est-ce que tu penses que le Tour de France, du coup, a vraiment changé pour ces trois coureurs, leur façon de voir les choses, finalement, hein, même s'ils ont connu des destins assez différents durant la saison, est-ce que c'est sous l'aune du Tour de France qu'il faudra de nouveau regarder et se projeter en 2020 pour ces trois coureurs?
C'est une vraie question, parce que ça, dans un sens positif ou négatif, ça a vraiment influencé leur saison l'année dernière. Et après avoir, ce sont quand même des cas totalement différents, parce qu'il y en a deux qui jouent sur, enfin ils sont sûrs et certains de jouer le général. Il y en a un qui joue plutôt les étapes, mais qui a eu quand même pendant 15 jours le maillot jaune, et qui a quand même goûté à ça, et que c'est difficile après de ne pas revenir à ça quand même, après avoir goûté les émotions, la popularité, les gens qui l'encouragent au bord de la route. C'est sûr que forcément ça change une saison entre les déceptions de Bardet, qui d'ailleurs devrait enfin, j'ai envie de dire, changer son calendrier et peut-être goûter autre chose que le Tour de France, et Pinot qui commence à y croire, qui a prouvé cette année qu'il pouvait y croire, qu'il pouvait être très fort en montagne et faire partie des meilleurs, faire des écarts en montagne, ce qui est le plus important. Donc oui, ça va changer l'année prochaine leur programme. Pour Pinot, ça sera être encore parmi les meilleurs. Pour Bardet, se changer les idées sur le Giro et la Vuelta, et peut-être la Vuelta, les Mondiaux, les Jeux Olympiques. Et pour Alaph, bon, je pense qu'il viendra, enfin ça sera encore en franc-tireur. Alors après, il a un profil on va dire beaucoup plus polyvalent, il peut briller ailleurs, Alaph, mais évidemment sur le Tour, il va quand même, une fois que le Tour va commencer, il va vouloir y goûter, hein, à la victoire et au podium, il aura forcément envie de se montrer.
Alors Charles, j'ai envie de te poser la question à toi parce que je sais que tu aimes bien parler de lui, tu aimes bien aussi parfois lui taper un peu dessus, pas trop méchamment, mais quand même. Est-ce que pour toi, ce qui est arrivé un peu à Bardet durant le Tour de France 2019, c'est, on peut considérer finalement c'est peut-être un mal pour un bien par rapport à cette année, pour lui, une façon de trouver une nouvelle motivation pour se relancer?
Ah oui, complètement. Parce que moi, je sentais qu'il y avait une espèce de lassitude, pardon, chez Romain Bardet, qui année après année, ouais, année répétait.
On l'a tout senti.
Ce Tour de France, toujours tout pour le Tour, et le fait que ça ait pas du tout marché en 2019, je pense que c'est très salutaire parce que ça a permis de se remettre un peu en question, pas forcément pour lui, hein, parce que lui, il aspirait à autre chose depuis un moment, je crois, mais aussi au niveau du staff d'AG2R La Mondiale, qui a peut-être enfin compris que ça pouvait être intéressant de laisser Romain Bardet choisir un peu où il voulait aller. Je pense qu'il va se faire plaisir sur le Giro. Je ne le vois pas gagner ni sur le podium parce que la course ne lui convient pas forcément, enfin en tout cas le parcours. Mais je le vois bien gagner une ou deux étapes et ensuite arriver très très en forme pour les Jeux Olympiques, où Thomas Voeckler l'a dit, hein, récemment dans une interview, qu'il avait la chance, hein, qu'il était très heureux de pouvoir compter sur un de ces trois coureurs justement qui pourra arriver un peu plus tôt au Japon et donc s'acclimater un peu mieux au décalage horaire, au climat, etc. et faire partie vraiment des favoris pour la course en ligne des JO, parce qu'on le rappelle, Romain Bardet, ce sera l'un des seuls coureurs phares qui ne sera pas passé par le Tour de France, donc il aura par conséquent un réel avantage, je pense, par rapport à la concurrence.
Surtout qu'on tient avec lui, les autres aussi ne hein, sont pas des manches dans cet exercice, mais on tient un coureur de grand tour qui est capable de briller sur les courses d'un jour. On l'avait déjà vu avec le championnat du monde 2018 remporté par Valverde, où finalement il fut presque le dernier à rendre les armes face à l'Espagnol. Grégory, j'ai envie de te poser aussi la question. Du coup, Bardet, l'année prochaine, on le verra plus sur le Giro en franc-tireur aussi, et quitte peut-être à mettre le général un peu derrière. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas la meilleure carte à jouer effectivement pour les championnats du monde?
Pourquoi pas? Après, je suis pas certain qu'ils mettent vraiment le général de côté sur le Giro. C'est c'est le parcours qui fait que ça ne l'avantage pas tellement du fait des nombreux kilomètres contre la montre. Mais à mon avis, je pense qu'il va préparer sa saison de manière à faire deux gros blocs. Un premier gros bloc sur le Giro où il va tout donner, je pense, malgré tout. Et qu'il va tenter de faire un très bon classement général, même s'il n'arrive pas à monter sur le podium. Mais c'est, enfin, après, tout est possible. Et de l'autre côté, repréparer un bloc pour être performant sur les Jeux Olympiques. Si tout va bien, je pense que Bardet peut faire un très bon leader pour l'équipe de France, même si, bien évidemment, il ne faut pas écarter les deux autres coureurs qui sont le sujet de l'émission. Mais Romain Bardet, quand tout va bien, même s'il n'a pas une pointe de vitesse extraordinaire, il est quand même très très performant sur les courses d'un jour. Ce n'est pas qu'un grimpeur, ce n'est pas qu'un coureur par étape. C'est aussi un bon classic man malgré tout.
Tu le sens aussi comme ça, Greg?
Il a surtout besoin de voir autre chose. Hein. Je pense que il a une saison présente très difficile. On a vu, c'était quand même triste de le voir à ce niveau-là. Grégory avait parlé du Ventoux tout à l'heure, c'est caractéristique, c'est pas normal de voir un Romain Bardet à ce niveau-là, incapable de faire la différence, ces pentes-là. Donc je pense qu'il faut qu'il se fasse plaisir cette année, que ce soit sur les classiques, les courses qu'il aime bien, que ce soit les Strade Bianche, etc. Il y a aussi de belles étapes de montagne au Giro, il y a des contre-la-montre, mais des belles étapes de montagne, qu'il se fasse plaisir surtout, je pense. C'est un peu ce qu'a fait Pinot les années précédentes, finalement, d'aller sur le Giro et la Vuelta pour retrouver des sensations, pour un peu enlever la pression du Tour qui est parfois difficile à supporter. Donc moi c'est ce que j'attends de lui, qu'on le retrouve un Romain Bardet offensif, disruptif, comme il aime bien le dire, et qu'il se fasse plaisir surtout, qu'il retrouve un peu le goût de faire des efforts, d'appuyer fort sur les pédales, et que pourquoi pas avoir une belle surprise au JO ou aux Mondiaux.
Oui, c'est ça, hein, parce que comme vous, hein, l'année dernière, on a senti effectivement beaucoup de lassitude dans les déclarations de Romain Bardet, qui faisait pas seulement peine à voir, mais presque des fois peine à entendre à ce niveau-là. Et j'avais un peu peur qu'il, comment dire, qui sont un peu cramés par toutes ces saisons qui ressemblaient vraiment à des copier-coller des saisons précédentes. Hein. On avait un peu l'impression de voir voilà, Bardet faire à peu près d'une saison à l'autre, toujours la même course, avoir toujours le même calendrier. Cette année, il a a priori annoncé un pour 2020, en tout cas un calendrier assez différent de ce qu'il fait d'habitude, avec déjà une reprise dès le Tour Down Under. Qu'est-ce que tu en penses, Charles ? Une bonne idée ?
Le Down Under, tu dis ?
Ouais, c'est...
Down Under.
L'accent anglais,
je le dis comme je peux.
C'est magnifique. Mais non, je pense que c'est une très très bonne idée pour Romain Bardet, de reprendre le Tour Down Under, puisque... Il n'a pas couru, on l'a dit, depuis juillet. Donc à un moment, il va falloir aussi reprendre le rythme de la compétition et redémarrer dès janvier, en plus hors de la pression en Australie, où le climat il fait 35 degrés dans le sud de l'Australie. C'est plutôt parfait, je pense. En plus, il pourra toujours se tester sur un parcours qui peut lui convenir. Parce qu'on l'a dit, Romain Bardet, c'est pas seulement un grimpeur, ça peut aussi être un puncher. Le parcours du Down Under l'an prochain peut se prêter à ce genre de coureur. Il pourra se tester, je l'ai dit, sur Willunga aussi. Peut-être qu'il arrivera à battre Richard, on ne sait pas, sur un malentendu. Enfin bref, blague à part, je pense que c'est une reprise intéressante hein, qui permet de reprendre du rythme et pourquoi pas de reprendre aussi par un résultat positif parce que la concurrence n'est pas non plus très très élevée en Australie à cette période de l'année. Il y a 3-4 coureurs au top et derrière, on peut facilement, si on est un coureur de la trempe de Romain Bardet, signer un top 10.
Très bien. Bon, je vous propose maintenant d'aborder rapidement également le programme des deux autres coureurs. Là, on va avoir un Alaphilippe qui va devoir faire des choix, hein, parce qu'on a un peu l'impression, lorsqu'on le voit courir, qu'il y a beaucoup, beaucoup de courses qui peuvent lui convenir. Hein. C'est un peu le Valverde français, d'une certaine façon, pour beaucoup de suiveurs. Cette année, il a même annoncé sa participation sur le Tour des Flandres. Voilà. Alors, est-ce que le risque, ce n'est pas trop de le voir se disperser finalement dans différents objectifs ? Est-ce qu'il va pouvoir rester concentré ? Est-ce que, le miroir aux alouettes qui représente le Tour de France pour quelqu'un comme lui, finalement, ne va pas être, va pas représenter quelque chose qui va vraiment trop sur lequel il va axer sa saison et au détriment du reste ? Comment tu vois les choses, Grégory ?
Ça restera à voir. Après, par exemple, pour la participation d'Alaphilippe au niveau du Tour des Flandres, il a la chance d'appartenir quand même à une équipe qui est particulièrement rodée dans le domaine. Donc, il peut très bien y aller juste pour se tester. Il aura bon nombre d'équipiers qui pourront prendre une place de leader dans l'effectif, quoi. Et après, il faudra voir pour le Tour de France. Je pense qu'il va quand même auparavant essayer de marquer la saison de son empreinte. C'est vrai que la saison risque d'être longue pour lui s'il veut être performant un peu partout. Il faudra peut-être redéfinir certains objectifs. Il ne faudra peut-être pas vouloir gagner dès la reprise au Tour Colombia, par exemple. On peut éventuellement attendre une montée en puissance. Après, il faudra voir sur le Tour de France si... S'il compte tenter de jouer le général, il voudra certainement briller et essayer d'être très bien placé en début de course. Donc à voir par la suite s'il essaye de s'accrocher, si ça vaut le coup ou pas, s'il y aura forcément les Jeux Olympiques en ligne de mire. Forcément, si c'est pour être 8-9e, je pense qu'il décrochera pour préparer les Jeux. À mon avis, ça se passera plutôt comme ça, ou alors une course en franc-tireur, il faudra voir.
Parce que moi, j'ai le souvenir d'un Alaphilippe qui avait commencé effectivement l'année 2019 tambour battant pour finir son premier gros bloc quand même un peu sur les rotules. Hein, c'est-à-dire des Ardennaises, bien sûr, où il avait remporté quand même la Flèche Wallonne, mais on l'a vu sur Liège-Bastogne-Liège quand même nettement en dessous de ce qu'on aurait pu légitimement espérer. Alors est-ce que selon toi, Greg, par exemple, tu penses qu'il va peut-être mettre la pédale un peu plus douce sur ce début de saison pour mieux se réserver justement pour la fin de ce premier bloc ?
Peut-être, mais je vais faire une réflexion là-dessus et comparer par rapport aux autres. L'avantage à Alaphilippe dans le choix de son calendrier, c'est que son équipe va gagner en World Tour sans lui. C'est-à-dire que, on va passer tous les coups. Quickstep a une équipe assez énorme et on sait que l'équipe Quickstep va gagner sur les courses World Tour. Même sans Alaphilippe, il n'a pas cette pression-là qu'a beaucoup plus comptent beaucoup plus finalement Pinot et Bardet, car les victoires en World Tour d'AG2R et de Groupama, elles sont pas très nombreuses. C'est peut-être les deux seules qui donnent le plus de chances de gagner en World Tour. Donc c'est un avantage pour Alaphilippe aussi d'avoir cette liberté, voilà, de choisir son calendrier comme il le souhaite. Je pense que Lefebvre lui donnera aussi le calendrier qu'il veut. Il aura le choix. Donc à lui de voir selon ses jambes, son inspiration. Et je pense que c'est vraiment la chance qu'il a par rapport notamment aux deux autres finalement qui ont quand même beaucoup plus de poids et de pression. Je pense notamment à Bardet. Enfin, ça a été un lourd poids pour lui à porter justement tout ce poids de l'équipe sur ça. Tandis que de ce côté-là, Alaphilippe est plutôt tranquille. Quick-Step va marcher. Je pense qu'on peut le dire, même sans Alaphilippe, gagnera même sans Alaphilippe. Donc il est beaucoup plus libre là-dessus et il n'a pas cette pression-là.
Charles, est-ce que c'est aussi ton avis là-dessus ?
Ouais, moi je pense que surtout ce qui va changer pour Alaphilippe en 2020, ça va être le Tour de France. Enfin, cette année, on a quand même eu un gros effet de surprise où personne ne le voyait vraiment venir et il a eu plus de liberté qu'il aura l'an prochain. Et en plus, l'an prochain, il n'y a pas de chrono par équipe et il n'y a pas de chrono individuel pour continuer à faire un peu des différences par rapport à ses rivaux. Donc je pense que l'an prochain, il va être plutôt tranquille, il va viser les étapes, quitte à se prendre des gros tirs et à faire grouper tôt sur d'autres, parce que de toute façon, il y a les JO, même si je pense que les JO sont un peu trop durs pour Alaphilippe, moi. Mais je pense qu'il ne voudra pas cramer une deuxième fois consécutive la fin de saison, et que la grosse clé pour lui, ça sera de savoir mettre le bémol sur la grande boucle pour être un peu frais quand même en deuxième partie de saison.
Quelque chose que ne pourra pas se permettre Thibaut Pinot.
Quelque chose que pourra pas se permettre Thibaut Pinot. Pour moi, Thibaut Pinot, les Jeux Olympiques, c'est mort. Enfin, je vois pas comment, s'il vise le général et que j'espère qu'il abandonnera pas ou qu'il aura pas un coup de moins bien à un moment. Enfin, quand tu luttes pendant 3 semaines à fond pour le podium ou la victoire, je vois pas comment tu peux être frais pour les JO. Parce que pour expliquer le truc à ceux qui n'ont pas forcément suivi, le Tour de France termine le dimanche soir. Et la course en ligne des JO a lieu le samedi, sachant qu'on ne peut pas partir avant le lundi au Japon et qu'il y a 12 heures de vol plus une petite dizaine d'heures de décalage. Ça veut dire que tu arrives le mardi au Japon pour aller courir le samedi dans un climat complètement différent, chaud, humide, et avec un jet lag qui est quand même assez élevé. Donc je ne vois pas comment on peut, après 3 semaines de course, être compétitif comme ça sur une épreuve d'une journée comme.
Donc pour continuer sur Thibaut Pinot, lui, ce qu'il devra favoriser avant tout l'année prochaine, ce sera le Tour de France.
Le Tour et les Mondiaux, je pense. Enfin, je ne sais pas ce que les gars en pensent.
Mais... Et les Mondiaux, oui. Parce que là, c'est en octobre. Oui, vous en pensez la même chose, Grégory ?
Bah oui, je pense qu'après le Tour de France, il y a quand même relativement le temps de se préparer pour un dernier bloc pour les Mondiaux, justement. Donc il y a moyen de faire un bon résultat pour Thibaut Pinot là-bas. Après, pour ce qui concerne la vision globale par rapport à Julien Alaphilippe, c'est vrai que c'est complètement différent. Je sais pas, parce que chez Groupama FDJ, il y a quand même beaucoup moins de leaders que chez De Koninck Quick-Step. Donc Thibaut Pinot sera forcément très largement sous les feux des projecteurs, quoi. Donc on comptera vraiment sur lui pour être performant toute l'année, même si David Godu commence à pointer le bout de son nez et devrait faire partie des leaders mondiaux, des grimpeurs sous peu. On attend quand même Thibaut Pinot tout le long de la saison, et c'est vrai qu'il pourra pas trop se reposer, quoi.
Mais si j'ai un petit pari, moi juste vite fait pour finir sur Pinot, je mettrai une petite pièce sur un très très bon Liège-Bastogne-Liège. Enfin, vu son profil, sa capacité de punch, comme on l'a vu sur le Tour de France, sur le Lombardie et sur d'autres courses, je pense que ça peut être la course où on pourrait faire quelque chose de pas mal.
Très bien. Bon, écoutez, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit passage en revue de chacun des commissaires et de donner vite fait votre avis sur... Allez, lequel des trois devrait le plus réussir sa saison, sans forcément parler que les autres connaissent un échec, mais lequel des trois devrait tirer le plus facilement son épingle du jeu, bien compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, du contexte, du calendrier, des équipes dans lesquelles il se trouve. C'est pas un exercice toujours facile de se projeter comme ça, c'est sûr, mais on a donné déjà quelques éléments pour bien commencer à à deviner et à augurer un peu de tout ce qui va se passer. Qui veut se lancer le premier, Charles ?
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce que Alaphilippe va beaucoup gagner, forcément plus que les deux autres, parce qu'il a des qualités que les autres n'ont pas, notamment en termes de vitesse. Mais j'ai envie de parier sur Romain Bardet. Quoi.
Oh !
Qu'il nous fasse.
Enfin, ça ne veut pas dire que ça sera lui qui aura le plus de belles victoires ou le plus de grandes victoires, mais.
Charles qui parie sur Romain Bardet.
Ouais, mais j'ai dit qu'il serait certainement champion du monde.
Hein, tu l'as déjà évoqué lors de précédentes émissions.
Je vois au-dessus, en fait, pour préciser un peu ma pensée, je ne le vois pas forcément faire mieux qu'Alaphilippe, parce que je l'ai dit, Alaphilippe, il va beaucoup gagner, forcément, sauf s'il a une grosse blessure ou un gros souci, ce qu'on ne lui souhaite pas, mais Romain Bardet, c'est celui que je vois le plus évoluer au-dessus de son niveau de cette année, ou des années précédentes.
En même temps, c'est celui qui était un peu le plus en retrait quand même sur l'année 2019. Donc, il arrive avec peut-être une volonté de revanche un peu supérieure aux deux autres. Greg ?
Je vais dire, moi, je vous ai facilité. Je pense qu'à Alaphilippe, évidemment, il aura beaucoup plus de courses. Donc, il aura beaucoup plus la chance de s'illustrer. C'est le risque pour les autres, c'est-à-dire de miser sur les grands tours. C'est tellement aléatoire, il n'y a qu'une seule course ou peu dans leur tête que c'est compliqué. On parle beaucoup de victoire, mais est-ce qu'une deuxième place de Pinot avec un beau Tour de France où il a joué la victoire jusqu'au bout, c'est un échec ?
Non.
S'il termine sur la boîte, on ne peut pas dire que c'est un échec.
Non, mais avec un beau, avec la manière, je parle.
Oui.
Je pense que c'est Alaphilippe va réussir sa saison beaucoup plus que les autres.
Très bien, Grégory.
Je pense qu'Alaphilippe va faire une très bonne saison, qu'il aura beaucoup de victoires. Après, est-ce qu'elle sera meilleure que 2019? J'en suis pas sûr du tout. D'un autre côté, j'aurais bien eu envie de parier sur Romain Bardet, forcément, vu qu'il, on va dire, sans trop critiquer, on va dire qu'il part de tellement loin qu'il peut être largement celui qui fera la meilleure saison des trois avec qui va avec un esprit revanchard, qui va avoir beaucoup de bons résultats sans forcément gagner énormément de courses, mais des résultats qui pèsent largement. Mais du coup, pour changer un peu, je vais parier sur Thibaut Pinot qui réussirait à avoir 3 semaines pleines sur le Tour de France. Et même s'il ne ferait pas forcément énormément de résultats à côté, rien que 3 semaines de Tour de France parfaites, ce serait idéal, quoi.
En jaune à Paris, carrément.
Bon, la dernière fois, je l'avais mis sur le podium à la 3e place, mais pourquoi pas rêver, le parcours lui convient. Mmh.
Bien, moi je vais mouiller aussi pour Romain Bardet pour 2020. J'ai tendance à penser que les courses d'un jour dont on a beaucoup parlé durant cette émission, à savoir les JO et les mondiaux, risquent d'être un poil trop difficiles pour quelqu'un comme Alaphilippe. Et je le vois mal réussir du coup une aussi belle saison, puisque le Tour de France, on sait, le parcours lui sera aussi également moins favorable. Donc peut-être que les planètes vont enfin s'aligner pour Romain Bardet en 2020. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on leur souhaite aux trois, c'est de faire la saison dont ils rêvent. Maintenant, il n'y aura pas la place pour tout le monde, voilà, on sait que on en verra en tout cas forcément au moins un des trois sur l'une ou sur l'autre. Je pense que ce seront quand même des coureurs qui vont animer l'ensemble de la saison, si bien sûr ils passent à travers les pépins physiques. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Une dernière chose à rajouter ? Non ? Eh bien, écoutez, à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à saluer nos auditeurs et donc à vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pastille. Au revoir.
À bientôt. Salut tout le monde.